Matthieu, chapitre 6, et versets 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Il y a peu de versets qu'on sache autant par cœur. C'est Jean 3,16 peut-être, le concurrent le plus évident. On a répété cette prière des dizaines de fois. On a entendu prêcher sur ce sujet bien souvent. Pourquoi je prends ça? Mais parce qu'au début des vacances, je suis tombé sur ce passage et je me suis dit, mais voilà, l'enseignement de Jésus lui-même sur la prière. C'est vraiment. Alors, il y a beaucoup d'autres choses sur la prière, mais ça doit être vraiment le cœur, le noyau central. Puis je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce qu'elle veut dire? Là derrière, qu'est-ce qu'il y a qui fait que cette prière est si importante? Et j'ai réfléchi pendant un peu toutes les vacances. On était dans un camping en Bretagne, et il y avait une promenade qui faisait tout le tour du camping, un peu sous les arbres. Ça faisait presque 3 km, et un peu tous les jours, je faisais cette boucle, et j'ai beaucoup réfléchi à ces passages. Alors j'aimerais vous communiquer un peu ce que j'ai retenu de tout cela. Vous me direz, avoir passé un mois à penser à ça et en arriver juste là, c'est pas beaucoup, peut-être. Mais il y a des choses qui m'ont vraiment touché, j'aimerais vous les transmettre. Je vais surtout parler des trois derniers versets, des versets qui disent « Donne-nous notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses et puis ne nous induis pas en tentation. » Mais ces trois demandes, elles s'ancrent dans quelque chose de profond. Et Jésus commence par dire une chose qui nous semble un peu commune. « À qui je m'adresse ? Notre Père qui es aux cieux. » Bien sûr, on a encore rappelé, on a un Père qui est au ciel, un Père aimant qui nous approche. Ma sœur a parlé de la grandeur, mais de sa proximité. On a un Père. Mais je me suis dit, notre Père qui est aux cieux, Père, c'est une idée de proximité. Il est aux cieux. Qu'est-ce qu'il y a là derrière? Et en fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une expression qui est très rare dans la Bible. Elle arrive, nous sommes trois fois. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire, notre Père qui est aux cieux? Et en réfléchissant, j'ai pensé à ce verset de Jacques qui nous dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, dans lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » D'autres traductions disent « Toute grâce excellente, tout don parfait descendent d'en haut, du Père des lumières célestes ou du Père des astres célestes. » Le Père qui est dans le ciel ou le Père des lumières célestes, il y a une parenté évidente. Et qu'est-ce que ça veut dire, ce Père qui est dans le ciel, qui est dans la lumière du ciel, et il donne toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut. Et je me suis dit, mais quand il a dit « Notre Père qui est aux cieux », ben voilà ce que ça veut dire, parce que on prie, on demande quelque chose à Dieu, pourquoi? Pour qu'il nous donne. Donc notre Père qui est aux cieux, on s'adresse à celui dont le cœur, le désir est de donner. Donner toute chose excellente, donner toute chose, tout don parfait. Et je crois que c'est central, ça veut nous dire essentiellement que Dieu est la source de toute chose. Absolument tout provient de lui, des galaxies lointaines, aux microbes ou aux moustiques qui nous piquent. Tout vient d'en haut, il est la source. Il n'y a absolument rien qui ne soit pas lié de façon, mais je dirais directe, profonde, à Dieu. Le Dieu qui donne. En fait, les trois premières demandes qu'il y a dans cette prière, elles sont là pour donner un peu le contexte. C'est des prières qu'on adresse à Dieu pour dire quelque chose sur lui, disons. La première chose qu'il y a dans cette prière, c'est que ton nom soit sanctifié. Là aussi, on réfléchit, mais qu'est-ce que ça veut dire? On l'a répété, sanctifié, ton nom soit sanctifié. Alors j'ai eu la curiosité, j'ai regardé un peu toutes sortes de bibles, de traductions. Alors c'est traduit de multiples manières. Que la sainteté de ton nom soit respectée, que tu sois reconnu pour Dieu, que la gloire de ta personne soit manifeste. Donc j'aime bien que chacun reconnaisse qui tu es. Alors c'est vrai que ton nom soit sanctifié, ça a certainement de multiples significations, ça couvre quelque chose de très grand. Mais pour moi, là, je me suis dit, le nom soit sanctifié, le nom, notre Père qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié, que toi, le Dieu qui donne, le Dieu dont le cœur est de communiquer quelque chose, qui vient d'en haut et qui du ciel donne ces choses, eh bien, le sanctifier, le reconnaître comme tel, l'accueillir comme celui qui donne. Être sanctifié, c'est aussi mettre à part. Ça veut dire reconnaître, dans un certain sens, que Dieu est la seule et unique, vraiment source de tout ce qu'on vit et de tout ce qu'on reçoit. Et que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que le but de Dieu, finalement, c'est qu'on reconnaisse qui il est. Et qu'on reconnaisse qu'il est celui qui donne et qui donne généreusement. Que ton nom soit sanctifié. Reconnaître, apprécier que toutes choses nous viennent de lui. Il est l'unique source. Et je crois que c'est pour ça que la Bible condamne l'idolâtrie avec tant de violence, parce que c'est attribuer à d'autres une chose qui est dans la nature profonde de Dieu, dans sa relation avec nous. C'est chercher ailleurs ce que Dieu veut donner. Et je trouve que ça pose une question quand même grave sur notre culture, où il y a une volonté explicite de refuser Dieu, de le mettre de côté, pas de l'interdire, mais de le sortir de notre réalité. À l'école, il est interdit de parler de Dieu. Si comme scientifique, il y a cette idée que derrière ce que vous proposez, il y a l'idée qu'il y a quelque chose qui contrôle, c'est plus de la science. C'était, dans le passé, c'était tout à fait admis, mais aujourd'hui, c'est vraiment interdit. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais ça nous montre à quel point notre culture est loin de Dieu. Pas seulement parce qu'on pêche, pas seulement parce qu'il y a des choses, mais parce qu'on ignore celui qui est à la source de toutes choses. Et c'est très sérieux pour Dieu si son but c'est que son nom soit sanctifié. C'est vraiment passer à côté d'une chose absolument essentielle. Alors le but de prier correctement, c'est d'élever ce côté de Dieu. Et l'autre chose que nous donnent ces trois premières demandes, c'est que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Une réalité, c'est qu'aujourd'hui, la volonté de Dieu n'est pas faite sur la terre. C'est quand même assez étonnant si on réfléchit, parce que Dieu contrôle tout. Donc ça veut dire que la volonté de Dieu et que sa volonté ne soit pas faite. C'est quand même un paradoxe. Il a choisi une idée de base qui est celle du salut. Il a choisi que cette création, elle serait abîmée, gâchée, et qu'elle serait restaurée. Il a permis, mais c'est son plan, qu'on soit des pécheurs qui ont besoin de salut, qui ont besoin de connaître cette grâce. L'idée de base de Dieu, c'est pas que les choses soient parfaite, c'est que les choses se corrigent, les choses avancent, les choses. Il est le Dieu sauveur. Alors les trois prières qui viennent, les trois demandes qui viennent ensuite, notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, ne nous induis pas en tentation. Je trouve qu'ils s'ancrent et ils illustrent vraiment ces deux réalités, la réalité de le Dieu qui donne et la réalité d'un monde qui est pécheur. Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Et je dirais, ce n'est pas la première prière qu'on fait. Ça nous semble tellement évident. Alors on essaye facilement de spiritualiser ça. Ah, c'est le pain de la parole, c'est le pain qui nourrit notre âme, etc. Et je crois qu'il ne faut pas voir ça comme ça. C'est le pain, l'ordinaire. Jésus a choisi quelque chose d'absolument basique pour nous montrer ce qu'est la prière. Et d'ailleurs, c'est un peu curieux, un peu plus loin dans le chapitre, il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez revêtu. Ne vous inquiétez pas. Et puis, 10 versets avant, il dit, priez pour ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi prier pour quelque chose où Jésus dit lui-même, il s'en occupe? Même, je crois que l'essentiel, c'est pour qu'on réalise à quel point les choses viennent de lui. Nous n'avons absolument pas le contrôle de notre subsistance. Même notre pain quotidien, ça nous semble évident. On l'a toujours. Alors, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et je pense à l'époque où ça a été écrit, c'était plus concret. Mais on se rend pas. Est-ce qu'on se rend compte à quel point avoir du pain sur notre table dépend. Ça dépend peut-être de la guerre en Ukraine. Ça dépend du fait qu'il y ait des pétroles pour faire le transport. Ça dépend qu'il y ait des gens qui ont envie de faire boulanger et de se lever au milieu de la nuit pour travailler. Ça dépend d'une énorme quantité de choses. Dire, donne-nous notre pain quotidien, c'est une manière quand même de dire à Dieu, règne dans le monde entier. Conduis les choses pour que ce soit possible. Ce n'est pas une évidence. Toutes choses excellentes viennent du Père qui est dans les cieux. Tous nos besoins, le besoin le plus basique, comme celle de la nourriture, est tous nos besoins. C'est une illustration où Dieu nous dit, mais depuis les plus petites choses, les choses dont vous avez besoin, je m'en occupe et je m'occupe largement du tout. Tous nos besoins, des plus basiques aux plus complexes, Dieu s'en occupe. Nos besoins physiques, mais émotionnels, spirituels, tous nos besoins, ça vient de lui. Il donne ce qui est nécessaire. Alors comment, quelle attitude avoir face à cette réalité-là pour que ça sanctifie le nom de Dieu, pour que ça élève Dieu? C'est de réaliser que tout vient de lui. Et la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est être reconnaissant. Suzy a parlé tout à l'heure de notre reconnaissance, de notre histoire. Je crois que c'est très important d'être reconnaissant, de reconnaître que toutes ces choses, Dieu y est, ça vient de lui. Il n'y a absolument rien qui vient autrement que par le canal du Dieu créateur. Mais c'est une prière. Ce n'est pas seulement dire merci, toutes les bonnes choses, pour le pain, les choses quotidiennes et les bonnes choses que Dieu donne, c'est le demander. Pourquoi demander? Alors que Dieu, il dit, il va s'occuper de ça. Le demander quand même. Mais je crois que ce qui est important, c'est que être reconnaissant, c'est regarder le passé. Les choses, c'est important. Mais prier pour, ça veut dire voir en avant. Ça veut dire, je demande à Dieu et je m'attends, plus ou moins consciemment, mais je m'attends à ce que ça vienne en réponse, que ça vienne en retour. Et quand les choses arrivent, eh bien, je peux les vivre avec la conscience que Dieu est présent. Si je regarde simplement le passé et puis je dis, ah oui, il était là, c'est assez différent de dire, il est là maintenant dans mon présent. Et c'est pour ça que je crois que c'est très important d'être devant Dieu dans une attitude d'attente. Prier, finalement, c'est participer, c'est participatif avec Dieu. Et Dieu, c'est ce qu'il cherche, il a envie qu'on participe avec lui, qu'on vive avec, non seulement qu'on soit reconnaissant, mais qu'il y ait ce mouvement avec lui. finalement, compris ou compris pas, Dieu nous donnera cette... La nourriture, elle est là, il s'engage, alors, pas toujours, mais... Et je crois que c'est important de réaliser ça pour la prière, plus généralement. C'est que finalement, nos prières ne sont pas tellement là pour provoquer une action de Dieu. Nos prières, elles sont là pour une, comme une espèce d'attente que les choses viennent de Dieu. Mais c'est Dieu qui est en action, en priorité. C'est lui qui est devant. Et lui demander les choses, c'est... c'est reconnaître finalement qu'elles viennent de lui. Attendre ce qui va se passer. Être ouvert à ce qui va se passer. Parce que quand on demande, ben, ça peut être oui ou non. Sans ça, c'est plus une demande. Demander et voir ce qui se passe. Et c'est tous nos besoins. Puis je dirais, il faut demander aussi, et c'est notre responsabilité, parce que ce n'est pas automatique. Dans un monde désobéissant, dans un monde où les choses ne sont pas selon la volonté de Dieu, eh bien les besoins ne peuvent pas être remplis. Il y a de nombreux croyants qui sont morts de faim, même si la volonté de Dieu est de nous donner toutes choses. Eh bien, ce n'est pas toujours le cas. Le monde est cassé. Les réponses peuvent être négatives. Et ça nous conduit à l'autre chose qui est là derrière, c'est la réalité de ce monde fragile, de ce monde cassé dans lequel nous sommes. D'un côté, il y a cet Dieu généreux, puis d'un autre côté, il y a cette réalité-là. Et il faut en tenir compte. Et elle a de la valeur. C'est pour ça que la deuxième requête, pour moi, elle est la plus importante. Il faut que j'accélère un peu. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On est dans un monde qui est fragile, cassé, il se passe mal, c'est plein de mal, et on y participe. On est des acteurs dans toute cette chose-là. Il n'y a pas de doute. Tous les jours, on a besoin de pardon. Tous les jours, on a une parole malheureuse. Tous les jours, on a un souci faussé. Tous les jours, on dit un mensonge. Tous les jours, on se fâche. Tous les jours, on est des pécheurs et on a besoin de pardon. Et cette prière, pardonne-nous nos offenses, elle est centrale. On a besoin constamment de recevoir le pardon de Dieu. Comme on a besoin de recevoir notre pain quotidien et tous nos besoins. Avec une différence. Je vous l'ai dit, le pain quotidien, il peut ne pas nous être donné. Le pardon, il est toujours donné pour ceux qui sont des enfants de Dieu. Parce que ça, c'est à cause de ce qui s'est passé à la croix. Ça sort de la réalité de la création ancienne. Ça entre dans une nouvelle création où, c'est sûr, Dieu pardonne nos péchés. Mais pourquoi prier pour ça? Mais parce que je crois que c'est vraiment central. Dieu veut qu'on reçoive ce pardon, on identifie ce pardon. C'est pour ça que c'est important de confesser ses péchés. Ce n'est pas tellement pour en être débarrassé, ce n'est pas une recette, mais c'est pour qu'on réalise à quel point on reçoit le pardon, la grâce de Dieu. Recevoir le pardon. Accueillir le pardon de Dieu. Et vous savez, si Dieu a permis la chute, a permis un monde comme celui dans lequel nous sommes, c'était pour qu'il soit, et la Bible le dit plusieurs fois, c'est pour manifester, faire comprendre la grâce. Et le pardon, c'est un peu la grâce, c'est un terme un peu abstrait. Le pardon, c'est la grâce incarnée. Il nous pardonne. Et comme on peut ne pas être reconnaissant pour le pain quotidien, on peut le passer à côté. Ben, je crois qu'il ne faut pas passer à côté de cette réalité-là. Elle est centrale. Accueillir le pardon de Dieu. Il y a un côté où c'est le cœur de l'expérience chrétienne aujourd'hui. Dans le futur, au-delà de... quand on sera parfait, il n'y aura plus de pardon. Mais aujourd'hui, C'est là, on est là pour reconnaître et recevoir ce pardon. Et on se dit, si on demande pardon, on réalise nos péchés, on a envie de changer. On a envie de faire des progrès. Et ce désir, c'est Dieu qui le met dans notre cœur. Il y a une dynamique de changement qui est créée. Mais notre expérience nous montre quand même que c'est difficile. On a beau dire, je ne veux plus me mettre en colère, les progrès sont souvent lents. En tout cas, dans mon expérience, les efforts directs sont peu efficaces. Elles sont des fois décourageants. Alors là, et ça c'est une des choses que j'ai comprises ou découvertes dans mes réflexions, c'est que Dieu, il nous propose un chemin pour changer. Il ne dit pas « pardonnez-vous vos fautes, nos offenses », mais il dit « comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Un peu plus loin, il insiste dans Jésus sur ça. « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. » Il a fait un lien extrêmement fort entre le fait qu'il nous pardonne et le fait qu'on pardonne. Alors, on se rend bien compte, c'est évident pour nous et pour la Bible, le fait de pardonner n'est pas ce qui nous mérite le pardon de Dieu. On ne pardonne pas toujours. Et c'est pour ça qu'on prie. On ne prie pas seulement « pardonne-nous nos offenses », mais comme nous pardonnons, on demande à Dieu dans cette prière, pas seulement qu'il nous pardonne généreusement, mais qu'il nous donne aussi cette capacité, cette volonté, cette possibilité de pardonner aux autres. Ça va ensemble. Au cœur de notre démarche pour vivre la foi, au cœur de ce que Dieu nous demande, comme dans cette prière, c'est très basique, la chose peut-être première dans laquelle on a travaillé, vers laquelle on a allé, pour laquelle on a prié, c'est la capacité de pardonner à ceux qui nous ont offensés, à pardonner à notre environnement, à ceux qu'on connaît, pardonner. Et j'ai l'impression que si on est dans cette démarche de pardon, qui est la volonté de Dieu, si vous pardonnez vos fautes, votre Père vous pardonnera. Il y a cette volonté de sa part. Et ben ceci veut dire que ça nous met dans une atmosphère, ça nous met dans un contexte, si on pardonne et on pardonne encore, ça nous met dans un contexte où il devient possible de progresser. On ne progressera pas dans les difficultés qu'on a, dans les faiblesses qui sont les nôtres, sans être ouvert à la liberté que donne le pardon des autres. Je crois qu'il n'y a pas le plus gros obstacle à progresser dans la vie chrétienne. Il n'y a pas le plus gros obstacle pour résister au péché que garder des rancunes, garder des jalousies, garder quelque chose vis-à-vis de nos frères et sœurs. Et si Jésus insiste là-dessus, c'est d'un côté parce que c'est une clé pour nous, pour vivre avec lui harmonieusement et avec les autres harmonieusement, c'est vraiment une clé. Et puis en même temps, c'est pour ça qu'on est ici. Jésus, il est venu pour pardonner les péchés. L'idée fondamentale de Dieu dans ce monde cassé, c'est de venir sauver, de venir pardonner. Et si on veut avoir reflété Dieu, honoré Dieu, sanctifié notre Père qui est dans les cieux, il faut être comme lui. Et si lui, c'est essentiellement un Dieu qui pardonne, notre appel, ce qu'il veut produire en nous, c'est d'être des hommes et des femmes qui pardonnent. Et tout le reste en découle. J'insiste là-dessus, parce que ça m'a vraiment frappé. On dépend énormément du fait de pardonner les offenses, de pardonner les faiblesses, de pardonner les manquements, de pardonner les égoïsmes, de pardonner tout. On est tous des hommes et des femmes faibles qui ont besoin de pardon de Dieu. On est tous des hommes et des femmes faibles qui ont besoin du pardon les uns des autres. Et c'est vraiment un appel profond que Dieu nous adresse. Mais ce n'est pas facile. On se rend compte, ce n'est pas évident. On se rend compte, je ne sais pas comment trouver le nom, pardon, de rancœur, d'exigence qui est en nous et pas facile à changer. Et on est faible pour ça. Et c'est pour ça que la dernière requête, elle est aussi importante. Priez, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous induis pas, ne nous expose pas à la tentation. Et tentation, ça peut à la fois dire l'épreuve, les difficultés, et ça peut dire la tentation au sens propre du terme. Dans ce texte, on ne peut pas séparer. Les deux choses vont ça, mais je pense que c'est une vraie prière de pouvoir prier. Ne nous expose pas, je dirais, à l'épreuve, à la souffrance, et dire ne nous expose pas à la tentation. On a besoin, parce que dans le monde dans lequel on est, on rencontre la souffrance et on rencontre la tentation. Ne nous expose pas. Alors, c'est un terme qui est un peu controversé. Très récemment, l'Église catholique a changé le texte du Notre Père pour ne pas dire induire en tentation. Alors, je ne sais plus comment ça a été choisi. Maintenant, on dit souvent ne nous expose pas à la tentation. Je dirais, si on met positivement, ça veut dire épargne-nous la tentation, simplement. Épargne-nous la tentation. Mais si on le demande à Dieu, quelle que soit la formulation, c'est que ça veut dire qu'il a le contrôle sur cette chose-là. On ne poserait pas la question s'il n'avait pas le contrôle. Et je trouve rassurant, important de réaliser qu'il est un contrôle des épreuves et des tentations. Et j'aimerais dire aussi une chose, c'est que si Dieu nous demande de prier ça, c'est qu'il veut répondre à ça. Il a envie, il désire nous épargner la tentation. Les tentations qui nous arrivent sont nécessaires. Il y a un verset dans Pierre qui dit « Tout n'est en étant affligé maintenant pour un peu de temps par diverses tentations, si cela est nécessaire. » Dieu veut nous épargner les difficultés. Il n'y a aucune volonté de Dieu de nous rendre les choses plus difficiles. Au contraire, il nous dit, mais priez pour que ce soit facile, priez pour que vous n'entriez pas là-dedans. Et il nous dit, mais demandez aussi, même plutôt, délivre-nous du mal ou délivre-nous du malin. Parce que comme ces tentations existent, et on tombe et on y a dans cette réalité-là, eh bien, on a besoin d'être porté là au travers, d'être délivré. On a besoin du secours de Dieu dans ces moments-là. Il n'y a pas une réponse unique où tout à coup il n'y a plus de tentations. Ce serait le ciel. Non, soyons prêts à recevoir tout le secours de Dieu, les indications, les leçons de Dieu pour ne pas entrer dans cette tentation. Mais délivre-nous, Seigneur. On a besoin de ta présence et de ton action tout au long de nos vies. Il ne faut jamais sous-estimer la force du mal, la force de cette tentation, notre totale incapacité de résister à ça sans le secours de Dieu. On a besoin du pain, de tous nos besoins, on a besoin d'être pardonné sans cesse parce qu'on pêche sans cesse, et on a besoin vraiment du secours, de la protection divine dans les combats qui sont ceux de ce monde. Et en résumant ça, je me suis dit, mais la prière, c'est essentiellement reconnaître des choses qui sont là, les recevoir, s'attendre à Dieu comme la source de toute chose, ce qu'il est, mais prier pour, en fonction de cela, demander les choses, parce que c'est la réalité, Dieu s'occupe de nous. Prier, reconnaître notre incapacité de résister au mal, de notre besoin de recevoir là aussi les ressources qu'il a. Et comme je disais, prier, ce n'est pas simplement demander puis Attends, non, il y a une dynamique, il y a une. On répond à la prière nous-mêmes, il y a quand même un mouvement. La prière, c'est pas juste des mots, ça se met en route derrière, mais avec ce sentiment profond que ça dépend à 100% de Dieu. Nous, on a, disons, 99,9% de Dieu, peut-être, il y a notre action, mais on reçoit. Et puis, pour moi, ce que j'ai reçu, ce que j'ai gardé de toute cette période de réflexion sur ce sujet, c'est l'importance, mais essentielle, de pardonner aux autres. Et j'ai réfléchi à plusieurs choses. Je ne sais pas, nature, quelqu'un de rancunier, je pardonne assez facilement. Mais Suzy racontait qu'on a été à un ensuissement de notre ancien milieu. Je me suis rendu compte, c'est vrai que. Dans un certain sens, j'ai pardonné, oublié, mais dans un certain sens, je me suis rendu compte, ça engendre en moi des réactions intérieures, un peu d'énervement. Pardonner, réaliser que la grâce de Dieu que je connais pour moi, elle est la même pour ceux qui m'énervent un peu. Pardonner. Non, pas beaucoup. Franchement, mais il y a cette chose-là. Eh bien, attention à pardonner, c'est la clé pour avancer dans la vie chrétienne. La rancune, la jalousie, les choses qui restent en arrière, c'est un obstacle extrêmement important. Et j'aimerais qu'on retienne de ça, attention, pardonnons, ne gardons jamais ces choses en place. Je crois que c'est central. Et cette prière, elle tourne là autour. On a besoin de recevoir de Dieu cette capacité de pardonner. Et c'est justement ce qu'il veut donner. Parce que ce qu'il nous demande de demander ici, c'est exactement les choses qu'il veut donner. Donc la capacité de pardonner, il veut nous la donner. Ben, saisissons-la. Amen. Ben, Seigneur, c'est vrai, on a besoin de recevoir de toi. Ça vient d'en haut et on te remercie pour ça. C'est vrai que si on était laissé à nous-mêmes ou même pas laissé à nous-mêmes, mais si les choses étaient sans ton secours, sans que ça vienne de toi, rien ne se passerait. Alors on te remercie parce qu'on t'a connu et on est entré dans cette dimension-là. Alors Seigneur, qu'elle nous émerveille toujours plus profondément, s'il te plaît, qu'il y ait dans nos cœurs de la reconnaissance et un désir de progresser. Mets-le en nous, Seigneur, et délivre-nous du mal. Pardonne nos péchés. Donne-nous tout ce dont on a besoin. Amen.